Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Claude Jopard. Claude, tu es géophysicien, donc tu t'intéresses à la Terre en général et en particulier à tout ce qui est à l'intérieur de la Terre et qui ne nous est pas accessible. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un mot que tu vas choisir, un mot scientifique qui est souvent malmené dans le langage courant. Alors, quel est le mot que tu as choisi ?
Magma.
Magma. Alors, comme je suis mathématicien, je vais commencer par te dire ce que ce mot signifie en mathématiques. Un magma, c'est la structure algébrique la plus pauvre de toutes. C'est rien du tout. Un ensemble muni d'une opération interne. Si on a deux éléments, on en produit un troisième, rien de plus, aucune propriété, une forme informe en quelque sorte.
Est-ce que ça correspond un peu à l'idée que tu te fais du magma ?
Ah ben c'est ce qui est utilisé, c'est pour ça qu'il est étonnant, c'est que le magma, en sens de la Terre, a une définition extrêmement précise, recouvre des liquides, on en parlera peut-être tout à l'heure, donc c'est très très précis, on sait exactement dans quelles conditions on peut employer ce mot-là, et d'ailleurs parfois il y a des confusions qui sont faites qu'on corrige, et puis dans le langage courant, magma c'est devenu quelque chose de tout à fait différent, et qui n'a rien à voir avec le mot géologique, et donc c'est assez étonnant de voir que ces deux acceptations du mot coexistent, et puis elles coexistent depuis très longtemps, donc c'est quelque chose qui m'étonne, et je ne sais pas d'où ça vient.
Quel est le premier sens ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le langage courant qui a volé le sens scientifique ou le contraire ?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce mot qui a une origine grecque et puis latin, c'était en fait, ça voulait dire le résidu solide d'un mélange. L'exemple le plus simple, c'est la lie qui s'accumule au fond d'une bouteille de vin. Donc la lie, c'est du magma au sens étymologique du terme. Alors, le géologue en fait fait un contresens parce que c'est le contraire, c'est pas le résidu solide d'un liquide compliqué qu'est le magma, c'est au contraire le liquide qui s'extrait d'un solide.
Ah.
Donc déjà, le géologue fait un contresens.
Qui s'extrait d'un solide ou bien un solide qui se liquéfie ?
Alors, le solide doit d'abord se liquéfier, mais en géologie, on sait que les solides ne fondent jamais complètement, sauf dans des conditions extrêmement particulières. Donc la fusion est partielle, et donc on a un mélange d'un solide et d'un liquide, et ce liquide, c'est le magma.
C'est-à-dire que dans le liquide, il y a des petits bouts de solide ?
Parfois ou parfois pas. Mais le magma, en fait, en principe, c'est le liquide qui est extrait d'un solide, alors qu'il peut porter avec lui quelques cristaux. Et c'est là que la géologie est moins précise que les mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut autoriser, tant qu'il y a un peu de cristaux dedans, que ça reste du magma.
Donc ce que tu appelles solide dans ton discours, là, maintenant, c'est les cristaux.
Les cristaux qui forment, oui.
Qui sont tout petits.
Alors qu'ils sont petits, oui. Mais qui forment un ensemble cohérent, qui a des propriétés mécaniques bien définies à grande échelle.
Et qui sont répartis un peu aléatoirement à l'intérieur du liquide.
Une fois que les minéraux et les cristaux sont fondus, ils disparaissent complètement. Alors parfois, tu peux avoir quelques petits résidus. C'est là que la géologie ne définit pas les choses de manière précise. On ne va pas te dire qu'un magma, ça reste appelé magma tant qu'il y a moins ou plus de 0,1% de solide. Mais il reste toujours des petits bouts.
C'est comme une soupe avec des grumeaux.
Alors c'est une soupe avec des grumeaux extrêmement petits et en petite quantité.
Dans l'imaginaire collectif, le magma, c'est ce qui est dans les profondeurs de la Terre et qu'on voit parfois sortir par les volcans.
Ce qui sort d'un volcan, ce n'est pas du magma. C'est de la lave. C'est là qu'on fait la différence. Alors c'est important parce que le magma, le géologue ne le voit pas. Il peut le créer en laboratoire en fondant une roche, mais le magma naturel, on le voit pas parce que par définition, il reste en profondeur. Alors pourquoi on fait la différence ? Parce que ça permet de définir lorsqu'on est sur le terrain. Il y a une différence très nette entre une roche qui a été magmatique, qui va être cristallisé à petite échelle, qui donne un assemblage qui est plus ou moins homogène, un granite par exemple, ça a été le résultat d'un magma qui a cristallisé lentement, qui a fait des cristaux, et puis qui donne une roche que lorsqu'on la voit, on a l'impression que c'est quelque chose d'homogène. Mais
quand tu dis roche, tu veux dire c'est solide essentiellement.
Ah, une roche c'est solide, par définition une roche est solide. De ce côté-là, le géologue est très précis.
Quand on descend dans les profondeurs de la Terre, par exemple, il m'est arrivé il y a quelques années maintenant de descendre très profondément dans une mine de charbon. Je crois que j'étais descendu à 1500 mètres de profondeur, c'est possible ?
Tout à fait, oui, oui.
Et là, quand même, ce qui m'entourait, c'était du charbon solide,
oui.
Pas encore du magma.
Ah non, bien sûr que non. Le charbon, d'abord, c'est tout à fait solide, et c'est une roche, hein, le charbon. Alors, c'est souvent interstitiel avec d'autres roches. Il y a des filons de charbon. D'ailleurs, l'extraction du charbon, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il faut extraire les zones où il y a du charbon par rapport aux zones où il n'y a pas de charbon. Et c'est là, d'ailleurs, que c'est la source d'accident. Mais c'est bien une roche.
Pour aller au magma, il faut aller plus profond.
Alors, il faut savoir que sur la Terre, il n'y a pas de profondeur qui marque l'apparition du magma en tout endroit de la Terre. Le magma n'existe que dans des endroits extrêmement particuliers de la Terre, et il n'est formé que lorsqu'il y a des mouvements internes de la planète qui sont localisés là. Alors, si on descend, par exemple, en France, je descends, par exemple, sous Paris, j'ai beau descendre à 40, 50 km, il n'y a pas de magma. Et je peux descendre très profondément. Alors, je finirai par atteindre du liquide lorsque j'atteins le noyau terrestre, qui a plus de 3000 km de profondeur. Mais là, le noyau terrestre, c'est fait de... C'est autre chose, c'est plus du magma. Parce que la fusion dans la Terre, elle se produit, dans la grande majorité des cas, de manière très différente de la fusion que l'on réalise de manière courante chez soi. Chez soi, pour former du liquide, on prend un solide et on chauffe. Mais dans la Terre, ça ne se passe pas comme ça. C'est en décomprimant qu'on fait du liquide. Alors pourquoi ? C'est que la Terre est faite de roches très denses. Donc lorsqu'on s'enfonce, la pression augmente.
C'est de l'ordre de 5 kg par décimètre cube, non ?
La densité moyenne des roches, ouais. Alors ça, c'est la densité moyenne de la Terre. Ce n'est pas pareil. La densité des roches, en moyenne, c'est plutôt 3.
Ah, donc la partie la plus lourde, c'est au centre.
C'est pour ça. Alors le noyau, il est à typiquement une densité de 12. Hein, et c'est pour ça qu'en moyenne, c'est 5. Alors la moyenne, c'est ce qu'on détermine lorsqu'on utilise le champ de pesanteur de la Terre, qu'on détermine une densité moyenne. Et c'est comme ça qu'on a su que la Terre était différenciée d'ailleurs, puisque la densité moyenne était très différente de la densité de ce qu'on pouvait observer à la surface. Donc il fallait forcément qu'à l'intérieur, il y ait quelque chose de bien...
Donc les roches ont une densité de l'ordre de 3.
Voilà, c'est ça.
3 kg par litre.
Alors, 3, c'est ça, voilà.
Et le magma, lui, il a à peu près la même densité ?
Ah non, le magma, il est plus léger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il monte. Donc c'est pour ça qu'il s'extrait. Lorsque je fonds une roche, je vais avoir un mélange de solide et de liquide. Et ce liquide interstitiel, il va s'extraire tout simplement par la poussée d'Archimède parce qu'il est plus léger.
Et donc il faut qu'il y ait un espace pour passer quand même.
Alors, s'il est formé sur une épaisseur suffisamment importante, la différence de pression entre la colonne de liquide et la colonne de solide est telle que ça finit par fracturer les roches, et c'est pour ça que les magmas se frayent leur chemin tout seuls comme des grands. Ils arrivent à la surface tout simplement parce qu'ils sont plus légers et qu'ils sont produits sur des volumes suffisamment importants pour qu'il y ait ces différences de pression.
Et quand ils arrivent à la surface, c'est un volcan.
Alors ça crée des volcans. Quand ils arrivent à la surface, ils se transforment en lave.
Bien choisir les mots, c'est important en science, n'est-ce pas ?
Mais oui, parce que si je suis géologue et j'arrive sur le terrain et que je vois une roche et que je dis que c'est une roche magmatique ou que c'est une lave, c'est très différent. C'est-à-dire qu'une roche magmatique, c'est-à-dire c'est une roche qui a été en profondeur, qui est restée jusqu'au moment où l'érosion l'a dégagée, alors que la lave, elle a été mise en place en tant que liquide, à la surface.
Et donc la lave, c'est imbibée de gaz carbonique, de gaz...
C'est ça. Alors la lave, en général, il y a deux choses qui la différencient. C'est que souvent, elle porte des petites bulles de gaz, puisqu'à faible pression, les gaz qui sont dissous dans les magmas, en fait, finissent par former des bulles de gaz. Donc lorsque le magma sort à la surface, eh bien, il porte des petites bulles de gaz. Donc...
Comme la pierre ponce, non ?
Exactement, la pierre ponce, c'est une lave qui est figée. Et donc la lave, à ce moment-là, c'est très différent, puisqu'elle est pleine de vésicules. Ce qu'on peut voir sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est que la lave, comme elle se met en place à température ambiante qui est typiquement de 0 degré, elle refroidit extrêmement vite. Donc elle ne fait pas le même type de cristaux qui se forment en profondeur.
Claude, tu m'as dit ce qu'était le magma pour le scientifique que tu es. Maintenant, allons-y, dis-moi les utilisations du mot magma qui te semblent
pas approprié et qu'on rencontre dans le langage courant.
Ben dans le langage courant, le magma c'est utilisé pour décrire des mélanges qui sont hétérogènes, qui sont confus, diffus, en général peu ragoûtants. Donc on parle par exemple de magma des idées lorsqu'il y a des débats où finalement rien ne se dégage. On parle de magma sonore lorsqu'il y a des sons discordants qui sont mélangés. Alors que pour le géologue, le magma c'est quasiment l'entité la plus pure, puisque c'est le liquide qui va former les plus belles roches. Et donc d'entendre que le magma est utilisé pour décrire ces ensembles qui sont peu recommandables, c'est manifestement assez péjoratif, donc c'est choquant pour le géologue.
Donc c'est assez proche finalement du sens mathématique que je donnais, c'est un truc qui est très peu structuré, qui a
exactement
juste une loi interne, et c'est assez proche d'autres mots comme le chaos. On peut parler chaos aussi en géologie, non? Un chaos c'est aussi des roches qui sont disposées de manière totalement désordonnée.
Le chaos, en général, c'est ce qu'on décrit, c'est un certain type de formation qui se forme à la surface. Lorsque tu as des roches qui ont été mélangées par l'érosion, qui se retrouvent mélangées, alors tu peux retrouver ça après. Si ces roches-là sont mélangées à du sable et puis finissent par former une seule entité, tu les retrouves des centaines de millions après, ça te donne une seule roche. En général, ça peut être ce qu'on appelle une brèche. Et en fait, tu retrouves mélangées des particules qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui ont des origines totalement différentes et qui ont été mélangées. Donc l'ensemble, il existe, mais c'est un ensemble tellement hétérogène que ça n'a pas de sens d'essayer de déterminer quelles sont chacune de ses parties. Alors qu'un magma, tu sais parfaitement d'où il vient, tu sais parfaitement comment il a cristallisé, tu peux étudier son trajet de manière parfaite.
J'adore. Alors, il y a aussi d'autres mots, comme le mot tohu-bohu, qui aussi évoque ce mélange informe. Hein, mais ça, on ne l'emploie pas en géologie.
Ah non, le tohu-bohu, ce n'est pas un terme géologique.
Tu parlais d'une musique, d'un son qui est un magma. Est-ce qu'on peut l'approcher de ce qu'on appelle le bruit blanc ?
Ah non, parce que je pense que dans le bruit blanc, on ne distingue pas les différentes composantes, alors que quand on parle de magma, on sent bien qu'il y a des... C'est comme une soupe avec des grumeaux. Tu sens qu'il y a des choses là qui sont...
Ah d'accord.
Alors tu vois que c'est dans le liquide, il y a ces parties-là qui sont différentes de l'autre, mais elles sont un peu molles, tu ne sais pas trop comment les caractériser, mais tu les distingues tout de suite. Alors que...
Un bruit blanc, c'est un son qui a toutes les fréquences en même temps, toutes. Quel conseil donnerais-tu à l'Académie française qui régit notre langue pour corriger le sens du mot magma ?
Ouais, je ne suis pas sûr que je donne des recommandations. Je dirais simplement qu'il faut faire attention à ne pas, laisser dériver des mots vers des termes trop péjoratifs, parce que c'est insultant pour la géologie. Voilà.
Ah, donc en quelque sorte, que ton message, c'est que ce mot est un peu insultant pour la géologie. Non, pas insultant, un peu dégradant.
C'est un peu dégradant parce que pour le géologue, le magma, c'est quelque chose de, comme je l'ai dit, c'est quasi parfait, c'est bien homogénéisé, ça joue un rôle absolument essentiel dans la Terre. L'étude du magma, c'est essentiel pour la géologie, et de voir que ce mot est utilisé pour des ensembles aussi moches et aussi critiquables, ça désole le géologue, oui.
Donc j'en conclus que les millions d'auditeurs qui vont nous écouter vont corriger cette erreur.
Je ne suis pas sûr qu'ils écouteront, en tout cas, s'ils ont conscience de leur erreur, c'est très bien.
Quelle musique peut illustrer le magma ?
J'avais pensé qu'il y a un groupe qui s'appelle Magma. Pourquoi ils ont choisi le mot magma, je ne sais pas. Mais c'est un groupe qui est en existence depuis très longtemps, qui est un groupe très intéressant, avec des musiciens qui ont des techniques absolument parfaites et puis qui ont créé un langage musical qui est très particulier. Donc c'est le batteur qui s'appelle Vander, qui est le fils d'un pianiste célèbre de jazz français qui s'appelait Maurice Vander. Et donc il s'appelle Magma.
Est-ce que tu diras que cette musique magma, elle est un peu... désordonnée, ou au contraire, elle est structurée, elle est parfaite comme pour les géologues ?
Non, elle est, en fait, c'est très structuré, au contraire. Et d'ailleurs, ça demande, jouer cette musique-là, c'est très compliqué pour les musiciens. D'après ce que je comprends, moi, je ne suis pas musicien. Non, c'est une musique très structurée, au contraire. Donc c'est là où on retrouve, en fait, une espèce d'ambiguïté qui traîne pour ce mot qui est à la fois, dans certains cas, quelque chose de pas quasiment horrible de mélanger, puis quelque chose d'assez pur de l'autre côté. Donc on se retrouve là, oui, quelque part à la croisée des chemins, c'est étonnant. Mais c'est, en tout cas, c'est... un groupe de musical qui est très intéressant.
Peut-être un mot pour conclure, c'est le géologue s'intéresse à des choses qui sont finalement pas très loin de nous, quoi. Ils sont à quelques kilomètres sous nos pieds, qui sont par essence inaccessibles. Est-ce que c'est un charme de la science, ou bien est-ce que c'est au contraire un peu terrifiant d'étudier des objets qu'on ne verra jamais ?
Non, c'est ce qui rend les choses intéressantes, c'est que justement, il y a certaines roches que je sais que je ne pourrais probablement jamais voir, mais si je peux deviner et étudier leurs propriétés et déterminer les conséquences qu'elles ont, sans les voir finalement, c'est ça la beauté de la science, c'est qu'on n'est pas forcé de toucher et de voir pour comprendre.
Est-ce que tu as lu, quand tu étais adolescent, Voyage au centre de la Terre de
Jules Verne ? Bien sûr. Ah ben c'est magnifique. C'est totalement faux, hein, au niveau scientifique.
Il sort par un volcan. Ils sont sur un rocher qui gicle du fond de la Terre, oui.
Mais le fait qu'ils puissent se promener dans des galeries qui vont jusqu'à quasiment le centre de la Terre, c'est impossible. La pression ne permet pas ça. Mais c'est magnifique. Mais Jules Verne, pour moi, ça a été toute ma jeunesse. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu scientifique.
On va retenir que le magma est l'un des produits les plus purs qui puissent exister.
Voilà.
Très bien. Merci, Claude. Je ne connaissais pas ce groupe Magma, mais vous avez entendu quelques extraits de ce morceau au titre un peu compliqué, qui est Mécanique déconstructive commando, écrit avec une orthographe pour le moins surprenante.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.